16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces couples maudits. Non mais c'est passe terrible. Des choses, c'est terrible. Dans votre rubrique 99% vrai, vous nous parlez d'un amour contrarié plus contemporain mais plus tragique aussi.
Tragique, non, il faut rien exagérer. Disons que si on est un peu classique dans ces schémas de pensée et qu'on oppose un nom de principe au meurtre sadique et à l'anthropophagie, oui, on risque en effet de passer à côté et ça serait dommage qu'il y a eu de beau entre Catherine Knight et son compagnon John Price. Une relation amoureuse qui va nous permettre à tous, chers auditeurs, de relativiser les petits soucis qu'on peut avoir à la maison. Vous savez, quand, après une dispute, vous vous dites que vous allez quitter l'autre sous prétexte qu'il est fou, qu'elle est folle. Non. Après avoir entendu l'histoire de Catherine Knight, vous allez voir que personne n'est fou, personne n'est folle. En tout cas, pas dans les mêmes proportions. Et c'est quelqu'un qui côtoie des grands fous au quotidien qui vous le dit. Je vous rappelle que je bosse avec Stéphane Bern, un type sanguin, rebelle et éminemment subversif, capable de s'exclamer hors antenne.
Moi, je mets pas de masque, je vous préviens.
Ah non, mais non.
Ça ne donne pas plus de talent.
Même moi, qui fréquente au quotidien Stéphane Bern, le Nicolas Bedos mou, j'ai été choqué par le côté iconoclaste de Catherine Knight. Première femme australienne à être condamnée à la réclusion à perpétuité, sans libération conditionnelle possible. Son crime ? Eh bien, simplement avoir tenté d'emmener la nouvelle cuisine un peu plus loin. Des saveurs inédites, des cuissons maîtrisées qui n'ont pas conquis le jury du tribunal de Nouvelle-Galles du Sud. Catherine, je cite le jugement, n'aurait pas respecté le produit, le produit étant son conjoint et quelque part son dernier commis, John Price. Nous allons revenir sur ces faits épouvantables, mais un mot d'abord du passé de Catherine. On dit parfois que les actes les plus atroces sont imprévisibles. Les voisins s'étonnent que celui qu'ils croisaient tous les jours et qu'ils prenaient pour un type sans histoire s'avère être un monstre sanguinaire totalement ravagé du carafon. Là, quand même, dans le cas de Catherine, certains éléments auraient dû alerter, si ce n'est les voisins, du moins les types qui ont décidé un jour de partager sa vie. C'est normalement la base d'un premier rendez-vous Tinder. On essaye de détecter chez l'autre ce qui pourra potentiellement être un obstacle à l'épanouissement de notre couple. Mais faut croire que son premier mari, David Kellett, était nul en rendez-vous Tinder. La preuve, Stéphane, je fais David, vous faites Cathy. Bonjour, jolie Cathy. Alors comme ça, vous travaillez à l'abattoir du coin ?
Oui, j'adore ça. C'était mon rêve depuis toute petite. Au début, j'étais au découpage des abats, mais très vite, j'ai été promu au désossage. Ah. Et ils m'ont autorisé à rapporter mon set de couteaux à la maison. Je les ai suspendus au-dessus de mon lit pour qu'ils soient toujours à portée de main si j'en avais besoin.
Génial ! J'adore les gens qui vivent de leur passion. C'est hyper inspirant. Et sinon, à part que tu aimes couper la viande, il y a d'autres trucs que je devrais savoir sur toi avant de t'offrir un deuxième martini ?
Oui, j'ai arrêté l'école à 15 ans sans savoir ni lire ni écrire. Et la nuit, le fantôme de mon oncle Oscar, qui m'a violé à 11 ans, me rend visite.
J'adore. T'es vraiment quelqu'un d'entier, toi. Garçon, un deuxième martini, s'il vous plaît.
C'est horrible.
Quand tous les voyants sautent au vert comme ça, forcément, ça donne envie d'y aller. David épouse cette chère Catherine, malgré le conseil de sa belle-mère qui lui dit, parlant donc de sa propre fille, « Si tu la remues dans le mauvais sens, sic, ou que tu la trompes, elle te butera, elle a une vie sans moins. » Erreur, belle-maman, elle butera le prochain. Même si c'est vrai, elle a failli tuer David en l'étranglant dès leur nuit de noces pour cette raison sublime, Stéphane. Il s'était endormi après seulement 3 rapports sexuels. Ah oui, en plus d'être psychopathe, elle était exigeante au pieu. On passe rapidement sur le deuxième mari de Catherine, dont elle se contentera d'égorger le chiot et de le tabasser avec une poêle à frire, pour aller directement à ce pauvre John Price, qui s'entiche donc, on ne sait pas comment, de celle qui, au moment où elle débarque dans sa vie, a déjà une solide réputation de frappadingue. Et il la sent un peu venir, d'ailleurs, le pauvre John, car lui, il a déjà 3 enfants d'un précédent mariage, et vu les coups qu'elle lui met tous les jours, il a peur qu'un jour elle s'en prenne à eux. Il refuse donc qu'elle emménage chez lui, sauf que Catherine, elle, déteste qu'on lui dise non. Elle est comme votre fille de 2 ans, mais avec des couteaux de boucher au-dessus de son lit à la place des poupées. Début février 2000, elle commence modestement, j'ai envie de dire timidement, par tenter de le poignarder. Soupolé, visiblement facilement irritable, John la fout dehors. Le matin du 29 février, il se rend au tribunal pour demander une ordonnance d'éloignement afin que Catherine ne puisse plus s'approcher de lui. Cet après-midi-là, il dit à ses collègues que s'il ne revient pas demain, c'est que Catherine l'aura buté. Vous devinez ce qui va se passer, Stéphane ?
Bah oui.
Bien vu, Sherlock. En effet, le soir, alors même que les gamins sont à une pyjama party chez des amis, Catherine sort le grand jeu à John une dernière fois. Elle a acheté de la lingerie fine, ils font l'amour. La suite des événements, c'est l'autopsie non pas de John, mais des bouts restants et épars de John qui nous l'apprendra. Visiblement, Cathy lui a mis 37 coups de couteau avant de l'écorcher, puis de suspendre sa peau à un crochet à viande, de le décapiter, puis de cuire séparément les diverses parties de son corps. Mais vous le savez, pas de dîner presque parfait sans convives. C'est pourquoi elle dresse la table avec, tenez-vous bien, une assiette pour chaque enfant à qui elle prévoyait donc de faire manger leur papa en ragoût avec des pommes de terre.
Oh,
Dieu
non.
Soit loué, il n'y a qu'elle qui goûtera le malheureux John. La police, alertée par les voisins, étant arrivée juste à temps pour découvrir la scène d'horreur qu'on a du mal à se figurer. Les journalistes aussi, parmi eux, David, un jeune stagiaire français en échange qui, dépassé par les événements et persuadé qu'on peut encore sauver ce qui reste de John, s'exclame
« Vite, 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 il a l'air mort, il faut lui mettre de la fumée dans le cul !»
Oui, et oui, dans le sillage de Catherine Knight, tout le monde devient cinglé dans cette baraque. En 2006, elle a fait appel de la condamnation de perpétuité incompressible. Je suis au regret, Stéphane, car je sens que vous la trouviez sympa, de vous annoncer que l'appel a été rejeté, hélas.
C'est dommage.
C'est dommage, on aurait bien voulu la rencontrer.
Bah oui, écoutez, fascinant.
Et tout est vrai à part le passage sur David, c'est quand même fascinant, non?
Le type s'est pas douté. Le type, avec les couteaux
mais il s'est douté un petit peu tard visiblement, oui, puisqu'il est allé la dénoncer la veille du meurtre. Il est certainement pas très malin,
il devait pas être très
ou
malin.
Très amoureux, c'est ça le problème de l'amour.
Mais merci beaucoup. Était-il délicieux?
Peut-être était-il bon, ça sera une autre chronique. Merci Olivier.